Une chose est sûre, dans le futur, on ne pourra pas nourrir les gens comme on le fait aujourd'hui. Ça ne pourra pas marcher.
Nous mangeons du pétrole. Aujourd'hui, le système agricole est un système extrêmement énergivore.
Il faudra arrêter de compter sur les animaux pour notre alimentation.
Donc il faut trouver des stratégies, et les stratégies viennent souvent de la recherche et des laboratoires.
Vous pourriez produire toutes les protéines du monde dans une zone de la taille de Londres.
Si on se barre tout de suite en disant « ça marchera pas, ça nous fait peur, ça c'est pas éthique, ça c'est pas machin », mais on fait plus rien.
Une nouvelle façon de se nourrir.
C'est un impératif pour la planète comme pour l'être humain. Mais comment garantir l'avenir de nos assiettes et de leurs saveurs? Thomas est graphiste, autant dire qu'en 2080, il travaille avec l'intelligence artificielle nuit et jour, au point d'en perdre le fil de sa journée. Alors ce sont ces lentilles connectées qui dictent son quotidien. Elle l'envoie au lit quand il est l'heure de se coucher, lui suggère de prendre l'air, elle lui dicte même des menus équilibrés. La dictature du bien manger. Dans nos pires cauchemars, le futur de notre alimentation pourrait ressembler à ça. Thomas est diabétique. Une machine lui concocte chaque jour un mélange de nutriments adaptés à sa pathologie. Ce n'est pas bon, mais c'est la seule façon de conserver son assurance maladie. Une nourriture fonctionnelle, transformée, très éloignée de la nature. Quotidien rythmé par les injonctions alimentaires, où chaque jour ressemble au précédent. Ou bien l'alimentation sur mesure pourrait-elle nous permettre enfin de manger ce qui nous fait du bien? Et puis, les machines ne sont jamais infaillibles. Ce soir, Thomas tient une belle occasion de faire une entorse à son régime en allant dîner dehors.
Le conseil alimentaire devrait pouvoir jouer une fonction préventive par rapport aux problématiques de santé liées à l'alimentation. On pourrait imaginer des solutions qui nous disent « Pour ce début de semaine, tu as déjà mangé 3 fois de la viande, donc aujourd'hui, nous te conseillons, voire même nous te demandons de limiter tes protéines animales pour le reste de la semaine, de limiter ta consommation en sucre ou en sel. » Donc de ce point de vue, c'est une avancée, puisque chacun pourra adapter son régime alimentaire de manière à avoir une meilleure santé. A contrario, ce sont des systèmes très intrusifs qui pourraient aller jusqu'à un contrôle de la liberté alimentaire de chacun et avec des injonctions qui, pourquoi pas, pourraient lier le prix de votre assurance santé avec votre régime alimentaire. Ce sont des choses qu'on peut tout à fait imaginer pour le futur.
On peut, aujourd'hui, on a les compétences et les qualités en laboratoire pour se dire, pour faire votre évaluation de votre physique et vous dire, vous, avec votre activité, etc., vous avez besoin de tant de calories. Et dans ces calories, vous avez besoin de tant de glucides, tant de protéines, tant de fibres, etc. Et là, pas de problème, vous serez en vie, en survie. Depuis des siècles presque, on a l'impression que le futur, ça va être ça, de manger des gélules, de manger des pilules, on voit le film Soleil Vert, mais il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de gourmandise. Donc, la nourriture, la cuisine, c'est justement la gourmandise qui va rester. Et ça, c'est important, et j'espère qu'en 2080, on sera que là-dessus. C'est-à-dire de d'abord se faire plaisir, et ensuite de répondre, ou en même temps de répondre à nos attentes, on va dire, physiologiques.
On pourrait se dire que, bah, par exemple, on saurait faire cuire du poisson, garder les arêtes, faire un bouillon de poisson, qu'on saurait encapsuler et manger, et on aurait toute la valeur nutritionnelle du même morceau de poisson. Vous voyez, on pourrait arriver à voir des choses comme ça qui seraient très... très pratico-pratique et nutritionnellement bonne. Et je pense qu'on arrêtera avec ces histoires segmentées du petit déjeuner, déjeuner, dîner. On pourrait se concentrer sur un modèle unique de repas, bon, à partager, qui lie un peu, qui fait ce travail du lien social et compléter notre alimentation avec des choses qui sont des compléments alimentaires qui iront autour.
D'ici 2080, nous devons avoir résolu notre catastrophe alimentaire et notre catastrophe environnementale. Car si on continue comme ça, nous verrons à la fois de plus en plus de personnes obèses et plus de personnes sous-alimentées sur la planète. La mauvaise alimentation dans les pays riches comme le Royaume-Uni et la France est liée à deux choses. D'une part, l'alimentation de qualité coûte trop cher. Et d'autre part, quand vous n'avez pas les moyens d'acheter cette alimentation chère et bonne, vous en êtes réduit à acheter de la mauvaise nourriture bon marché, qui elle-même favorise l'obésité. D'ici 2080, nous devons donc faire en sorte que tout le monde ait accès à un régime alimentaire à la fois sain et bon marché. Et ça, c'est un défi. C'est sûr que c'est un défi.
Projetons-nous justement dans ce futur idéal, où l'alimentation de qualité serait accessible à tous et en toute liberté. Dans ce scénario-là, Thomas est chef cuisinier d'un restaurant de quartier. Ce matin, il fait défiler des idées de menu sur ses lentilles. Le chef cherche à enrichir sa carte, végétarienne pour l'essentiel. Jusqu'ici, Thomas est parti d'un principe simple. Tout ce qu'il prépare provient de chez lui. Les légumes poussent sur le toit, les champignons au sous-sol, dans ce qui servait de parking au début du siècle. Et quand l'inspiration lui fait défaut, le chef peut toujours aller la chercher à la source. Il lui suffit d'ouvrir une porte et de s'équiper pour faire face au soleil de midi en cette année 2080. L'évolution de ce futur idéal, c'est que tous les immeubles sont désormais dotés de toits potagers. Ils permettent de mieux résister à la chaleur et font respirer la ville. Dans cette mégalopole, les fruits et légumes parcourent rarement plus de 40 km de la terre à l'assiette. La technologie de 2080 est au service de cette production entièrement locale. Grâce à ses lentilles connectées, Thomas peut suivre de jour en jour le degré de maturation de son potager, le taux de récupération des pluies ainsi que l'empreinte carbone de son installation. Chaque immeuble se doit d'être le plus autosuffisant possible.
Je crois à beaucoup d'alternatives comme celle-là pour nourrir de petits écosystèmes. Je pense qu'on va revenir à des zones à nourrir plus en circuit beaucoup plus court. Je prends un exemple hein, tout simple à Paris. Paris, on voit que aujourd'hui, dans le cœur du 20e arrondissement, il y a 1 hectare de jardin qui est capable de servir une dizaine de restaurants et 3 ou 4 immeubles autour. Je crois beaucoup à ce type d'implication. Ça ne suffira pas, mais de reconcentrer un petit peu les choses au cœur des villes, au cœur des villages, pour pouvoir produire une partie de ce qui est possible en termes d'alimentation plus végétale. On sort du bœuf-carotte pour aller vers le carotte-bœuf finalement. Et on voit que cette végétalisation, cette revégétalisation peut prendre du sens dans des petits écosystèmes de quartiers, de villages ou de villes.
Nous mangeons du pétrole. Aujourd'hui, le système agricole est un système extrêmement énergivore, pas seulement pour la culture, mais pour faire venir nos aliments, même le sel. Le sel peut venir, qu'on utilise sur la table, parfois il a fait des dizaines de milliers de kilomètres. En 2080, on sera dans un monde sans doute où on sera limité en accès à l'énergie et aux matériaux. Et ça, ça veut dire revenir à une situation que l'humanité a connue de tout temps, c'est-à-dire des villes denses, faites plutôt pour les piétons que pour les automobilistes, où il y a peu de trajets à faire pour les gens, mais aussi pour les fonctions vitales, comme l'agriculture.
Alors, ce qu'il pourrait y avoir autour des grandes villes, ce serait des jardins potagers, ce serait des producteurs aux portes des villes et des réseaux qui permettent d'être organisés et de pouvoir acheminer ces produits rapidement. Ce serait des producteurs qui seraient à 40 minutes, une heure de ces grandes villes. Aujourd'hui, nous, en tant que restaurateurs, on travaille déjà avec des producteurs qui sont en Ile-de-France, à côté de Paris, qui travaillent très bien en bio. Donc je pense que ce serait tout à fait envisageable qu'on ait davantage de producteurs aux portes de Paris et qu'on ait des systèmes de distribution au sein des villes et qui permettraient d'avoir accès à ces produits.
We need to see a massive...
Il faut absolument que d'ici 2080, on ait assisté à une transformation radicale de notre mode d'alimentation, aussi radicale que l'introduction de l'agriculture l'a fait il y a des milliers d'années. Les gens s'inquiètent du taux de croissance de la population dans le futur. Il est de 1% par an. Le taux de croissance du bétail, lui, est de 2,4% par an. En 2050, selon les projections actuelles, il y aura 100 millions de tonnes d'êtres humains en plus sur la planète. Et 400 millions de tonnes de bétail en plus. Les animaux d'élevage détruisent la planète plus efficacement que toute autre force. Donc il n'existe pas de bonne manière de nourrir un très grand nombre de gens avec de la viande.
Certains espèrent que l'on n'aura plus besoin d'animaux pour savourer le goût d'une viande ou d'un poisson. Thomas, notre chef cuisinier, a quitté ses plates-bandes pour chercher de nouvelles expériences gustatives. L'aventure gastronomique, ce n'est pas ce qui manque en 2080. Ce grossiste, par exemple, propose ce qu'on appelle désormais des répliques de poissons. Dans ce futur, l'élevage et la pêche ont été remplacés par la production de bactéries. Qui imite à s'y méprendre le poisson. Le gérant est une vieille connaissance. Son catalogue dispose de plus de 1000 saveurs différentes, inspirées des poissons d'autrefois. Fantasme. Retrouver le goût de la sole de son enfance. L'espèce s'est éteinte il y a 30 ans, victime de la surpêche. Le grossiste pense avoir quelque chose qui s'en rapproche. Une nouveauté élaborée à partir de micro-organismes cultivés en laboratoire. On ne peut pas dire de quel poisson il s'agit. Mais pour cause. C'est une combinaison de plusieurs saveurs différentes, une sorte de nouveau poisson, et qui n'existe que sous forme de carré de chair. Ça ne ressemble pas à une sole, ça n'a pas le goût de la sole, mais c'est assez inspirant. Convaincu, Thomas passe commande pour son restaurant.
Dans cette révolution alimentaire dont nous avons besoin,
La chose la plus excitante serait d'arriver à supprimer complètement la production de protéines animales. De produire nos protéines en usine et non plus à la ferme. Alors évidemment, aujourd'hui, beaucoup d'écologistes, et moi aussi je suis écologiste, hein, sont horrifiés par cette idée. Ils disent « Oh, nous ne voulons pas de nourriture produite artificiellement en usine, c'est scandaleux ». Mais quand on regarde ce que ça peut nous apporter, cela réduit considérablement l'empreinte carbone. Vous pourriez produire toutes les protéines nécessaires à la population mondiale dans une zone de la taille de Londres.
La protéine que nous fabriquons à partir de l'air, c'est un peu la même technique que la fermentation pour fabriquer du vin. Ce qu'on fait, c'est simplement cultiver des cellules de microbes d'environ 2 micromètres qui sont naturellement présentes dans la nature et de les laisser se développer. Nous les cultivons à l'aide d'une technologie appelée fermentation au gaz. Le microbe et ses milliards d'amis sont placés dans un bioréacteur rempli d'eau. Et c'est là qu'ils grossissent et se multiplient. Ensuite, nous enlevons le liquide et nous obtenons une poudre déshydratée. Cette poudre contient environ 65% de protéines, des glucides, des lipides, des minéraux et des vitamines. Vous pouvez l'utiliser pour créer des aliments similaires aux produits laitiers, comme de la crème glacée, du fromage ou du yaourt. Ou alors, si vous chauffez et pressez cette poudre, vous pouvez fabriquer des fibres et obtenir quelque chose qui ressemble à de la viande.
Les fermiers du Néolithique, quand ils capturaient des vaches sauvages, ils ne pensaient pas encore à faire du camembert. Eh bien aujourd'hui, on est encore loin d'imaginer tous les aliments qu'on va pouvoir inventer.
Avec notre technique, vous déconnectez la production de nourriture de la terre. Nos protéines, on peut les produire absolument n'importe où, au milieu d'une ville ou en plein désert. Ça a beaucoup d'avantages. Par exemple, ça peut permettre de produire ultra localement. Ou alors, vous pouvez aussi mettre vos laboratoires de protéines dans des zones climatiques extrêmes, comme par exemple en Arctique, où le vent vous permet d'avoir de l'électricité, ou dans le désert si vous installez des panneaux solaires. Et du coup, ça libère les terres agricoles qui étaient destinées à l'élevage, qui, elles, peuvent redevenir des zones forestières.
La plupart de ces techniques aujourd'hui en sont encore au balbutiement. Et on a beaucoup d'incertitudes sur leur avenir. Elles sont également extrêmement chères à produire. Et donc l'un des enjeux va être de savoir quelle est la possibilité pour ces techniques de passer d'expérimentation à l'échelle de laboratoire ou à petite échelle à quelque chose qui permette de nourrir des grandes quantités de population.
Graphiste tente ce soir de fausser compagnie à la dictature alimentaire que lui impose son assurance santé. Partout où il passe, surgissent des publicités personnalisées dans ses lentilles. Dans ce futur-là, des entreprises du numérique sont aussi celles qui produisent la nouvelle alimentation. Une sorte de distributeur de repas encapsulés. Pas franchement à 3 étoiles, mais ça le changera de sa routine alimentaire. Sur cette île, les menus interdits aux diabétiques. Un seul pourrait lui convenir. Thomas finit par se plier aux consignes. Dans ce futur-là, il n'y a plus de gourmets, il n'y a que des patients. Chacun est rappelé à l'ordre. Le moindre écart est sanctionné. Et il faut bien du courage pour échapper à ce diktat sanitaire. Servi, entrée, plat, dessert en 3 couleurs et 14 nutriments encapsulés. Non, ce n'est pas si mauvais. Cette fille. Dans un avenir et les...
les nouveaux aliments n'ont fait qu'élargir le répertoire. Mais notre chef cherche encore la note juste, celle qui sublimera son plat. On vend toutes sortes de protéines et pas une ne provient des abattoirs. Dont personne ne remet en cause les vertus aujourd'hui. En 2080, les enfants décortiquent un criquet comme leurs parents se préparaient une crevette. De la nouveauté. La vendeuse lui propose une viande élaborée en laboratoire à partir de cellules de bœuf et de langoustes. Faire à lui tout seul. Quelle bonne idée. Mais son produit phare, le voici. Un bond en arrière de 66 millions d'années, rendu possible par le clonage et la culture de cellules de synthèse. Le T-Rex Bone, un authentique steak de tyrannosaure, reconstitué à la taille d'une côte de bœuf. Tout un monde perdu dans un morceau de viande. On entrevoit déjà quelques idées de recettes.
Les aliments qui arrivent et qui seront peut-être majoritaires en 2080, eh bien, il y a les algues, il y a les insectes, il y a les microspirulines, on entend parler de plein de choses. Il faut aller regarder, en fait, dans chacune de ces familles d'aliments, de nouveaux aliments, eh bien, les possibilités. Possibilités, est-ce que oui ou non, ça va vraiment répondre aux exigences, aux contraintes écologiques ? Parce qu'on peut se dire, tiens, c'est super, on va faire des réacteurs avec des tas d'insectes ou des tas d'algues, mais est-ce que vraiment, d'un point de vue écologique, c'est plus vertueux que les solutions actuelles ?